Médias.
Médias. Podcast.
Médias.
C'est toujours avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette escale culturelle au cœur de l'Afrique.
Médias 1, Amna, l'Afrique en culture.
Et aujourd'hui, on va s'offrir une escale, un tête-à-tête avec le 7e art. Le 7e art marocain avec la 23e édition du Festival National du Film de Tanger qui a refermé ses portes le 4 novembre et qui nous a régalé avec une multitude de pépites. Il faut savoir qu'il y avait 4 catégories de compétition officielles, dont celle bien sûr consacrée au long métrage de fiction, la compétition court métrage, la compétition long métrage et la compétition film d'école. Et on a eu le plaisir d'être sur place et de recevoir en tête à tête ces 3 réalisateurs qui nous donnent un aperçu de ce qu'était cette 23e édition du Festival National du Film de Tanger. Et on commence par une catégorie qui nous tient tout particulièrement à cœur puisqu'elle donne la parole, elle met la lumière sur ces jeunes cinéastes, scénaristes en devenir. Et je fais référence à la compétition Film d'école, présidée cette année par le réalisateur marocain qu'on ne présente plus, Nordine Khemeri. D'ailleurs, on l'écoute.
Moi, je pense tout d'abord, et j'en suis convaincu, le talent, il est universel. On nous a toujours dit, oui, l'autre est toujours meilleur. C'est toujours ailleurs qu'on ferme les meilleurs, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a la preuve formelle, en regardant ces films, que le talent, il est universel et on en a beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut, qu'on travaille sur quelque chose de fondamental, ça veut dire toute la chaîne. On ne va pas juste former des réalisateurs ou juste des écrivains si on ne pense pas à la production, si on ne pense pas à la post-production, c'est-à-dire la musique, le mixage, l'étalonnage et tout ça. C'est-à-dire, le cinéma, pour moi en tout cas, c'est une chaîne. Tous les départements sont importants, du décor jusqu'à la musique, jusqu'au maquillage. On ne peut pas négliger un département, c'est un ensemble. C'est pour faire ces tableaux de peinture qui sont cinématographiques, il faut toute une équipe. Donc, former un réalisateur, c'est bien. Former un écrivain, c'est très bien. Mais ils ne servent à rien si on n'a pas le décorateur qui suit, si on n'a pas la post-production qui suit, si on n'a pas des producteurs aussi qui suivent. Et moi, je pense qu'on a compris ça. C'est-à-dire que maintenant, les écoles ont commencé à donner de l'importance à tous les départements. Et tout le monde est important parce que l'un aide l'autre. C'est-à-dire que tous les départements sont au service de la vision du réalisateur, la vision du film. Et donc, moi, je pense qu'il faut, ce que là où il faut investir maintenant, c'est dans 2 départements qui sont fondamentaux, c'est l'écriture et la post-production. L'écriture, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas écrire ou parce qu'on n'a pas des scénaristes, on en a. Maintenant, il faut investir pour le développer, pour les accompagner, pour qu'on puisse justement sortir de tous les clichés, l'écriture sur les clichés, stéréotypes maroco-marocaines. Il faut qu'on sorte de ça, tout en restant local, mais en ayant une vision universelle sur nos problèmes et sur nos histoires qu'on va raconter. Ensuite, la post-production, je pense au mixeur, je pense à l'étalonnage, je pense aussi à la musique. Tous ces départements font que le film, non seulement il va raconter l'histoire, mais il va rajouter un peu plus d'émotion et rajouter un peu plus de valeur. Donc, pour moi, c'est ces départements dont on a besoin.
Et voilà, tu as eu la chance de rencontrer ces élèves, de pouvoir découvrir leur univers. Et voilà, toi, tu cinéaste, comme on dit, tu n'as plus rien à prouver à personne. Et quelle est la différence fondamentale? Quelles sont les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui, de ces jeunes cinéastes en devenir, jeunes réalisateurs, scénaristes, etc. Est-ce que tu vois une différence entre ta génération et cette nouvelle? Quelles sont les préoccupations de ces jeunes gens qui voudraient traiter?
Moi, je pense qu'ils sont moins complexés que nous, ce qui est bien. Ils n'ont pas peur des tabous, de parler de tabous, ils n'ont pas peur de parler du Maroc d'aujourd'hui, nos problèmes existentialistes, la condition humaine. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qui m'effraie un peu, c'est qu'eux aussi, ils sont influencés par les médias, l'Internet, les TikTok, La vitesse avec laquelle il faut raconter l'histoire. Nous, on était la génération fascinée par Hamid Bennani, Jilali Farhati, Saad Chraibi, Tezé Abrahman et tous ces gens-là magnifiques, Bennani, ces gens qui ont raconté de très belles histoires sur le Maroc. Et aussi, on a été influencés par les grands cinéastes du monde. Donc, le cinéma ne doit pas et ne peut pas être juste un produit fast-food juste pour raconter l'histoire et très vite parce que soi-disant la nouvelle génération de téléspectateurs aujourd'hui ils n'ont plus le temps, ce n'est pas vrai, ils ont du temps. Quand on fait un beau film, les gens restent dans la salle et on l'a vu dans ce festival, que ce soit dans le long métrage, court métrage ou les films des écoles, on a vu que le spectateur reste quand il y a un beau film. Donc j'espère juste qu'il n'y a pas cette pression sur eux qui dit que il faut faire vite. Il faut raconter l'histoire d'une manière un peu à la TikTok et il faut toucher le maximum de gens. Non, moi, je pense qu'un cinéaste, surtout ces jeunes, doivent avoir la sagesse et l'intelligence de se dire le cinéma parle au cœur tout d'abord, avant de parler au cerveau. Et je pense que on a la preuve, parce qu'on a vu des films, on a la preuve que ces jeunes, la majorité d'eux, ne sont pas encore des proies à cette culture de fast-food qui est extrêmement dangereuse, parce que le cinéma, c'est le temps. Le cinéma, c'est de l'émotion. Et le cinéma, les beaux films, on les voit tout d'abord dans les salles de cinéma. Et donc, quand on va dans les salles de cinéma, on a envie de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et c'est comme, ça commence par la narration, le récit. Et du coup, je pense que ces jeunes, ayant la chance de leur parler, ils ont compris qu'il faut faire très attention à cette culture de consommation vite, là, ce que j'appelle moi le fast-food.
Et là, on va revenir un peu à vous, Nordine El-Khmeri, parce que voilà, c'est vrai que chaque fois qu'on sait qu'un film de Nordine El-Khmeri va sortir, on est un peu aux aguets de voir ce que tu vas nous proposer. Je te tutoie. Et qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme? Et si bien sûr, tu peux nous en parler.
Alors là, je viens de finir mon film qui s'appellera Mira. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est différent de tout ce que j'ai fait. Enfin, c'est différent de ce que j'ai fait les dernières années sur le cinéma noir, urbain, de Casablanca, qui raconte un peu les dérives de ces jeunes et de cette espèce de conditions humaines sur les jeunes perdus dans une société de consommation et dans une société où on est dur l'un avec l'autre. Là, je pars sur autre chose. Là, je pars sur le rapport de l'humain avec la nature. Donc, ça parle de Mira qui sauve les migrants, que ce soit les oiseaux ou les subsahariens. Donc, c'est une jeune fille de la région de Zayan, Azro, Ifran, Raslma, dans une espèce de forêt qui représente une espèce de métaphore pour la société. Et là, elle est juste magique et elle sauve les oiseaux et les subsahariens. Donc, c'est l'histoire humaine de quelqu'un qui est très proche de la nature et qui est proche de la compassion pour l'être humain.
Eh bien, on a hâte de découvrir ce film, surtout que maintenant qu'on sait qu'il sera très différent de ce que tu nous as proposé jusqu'à maintenant et le peu voilà que tu nous as dit. Eh bien, on a hâte vraiment de le découvrir. Et merci beaucoup, Nordine, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci infiniment.
Merci beaucoup. À très
merci.
Bientôt.
Merci. Bonne journée. Et après cet entretien avec le réalisateur marocain Nordine El-Khmeri qui présidait la section film d'école lors de ce 23e Festival National du Film de Tanger, place un énorme coup de cœur à Adnan Baraka, un jeune réalisateur, véritable mélomane, puisqu'à la base il est musicien, il a le cinéma et la musique dans le sang, il nous vient de l'Essav et son film avait fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie Fragment from Heaven. D'ailleurs, il avait été sélectionné au festival de Locarno. Ce film documentaire nous parle eh bien, des déserts du Maroc qui sont célèbres pour leurs chutes fréquentes de météorites. Fragments from Heaven raconte l'histoire très simple de Mohamed, un nomade, un bédouin qui vit avec sa famille dans une tente en plein désert. Et pour changer les conditions de vie parfois difficiles de sa famille, pour changer son quotidien, il décide de partir à la recherche de ces fameuses pierres qui viennent du ciel. Et de l'autre côté, on a Abdelrahman, un scientifique marocain réputé, qui lui aussi est en quête de ces fameuses météorites donc, qui s'écrasent dans le désert marocain. Tous les deux, eh bien, ils se mettent en quête Une sorte d'errance contemplative s'offre alors à nous dans cette immensité du désert. On ne sait plus quelle quête est la bonne. Est-ce que c'est la quête matérielle, la quête spirituelle ou encore la quête de tout être humain? On écoute d'ailleurs Adnan Baraka à propos de son film qui est en compétition dans la section long métrage documentaire du Festival national du film de Tanger.
L'idée a commencé en 2014, après la fameuse chute de la météorite martienne en 2011, ce qui a fait un écho partout dans le monde. Et le sujet m'a intéressé parce que il y a une quête derrière, il y a une quête de ces pierres dans le désert qui est très fréquente. Et donc c'est ce qui m'a vraiment inspiré, c'est ce phénomène d'aller quitter sa famille et partir à la recherche des objets célestes dispersés dans le désert.
Et comment s'est passée l'écriture du scénario? Parce qu'on sait que l'écriture du scénario d'un film documentaire n'a rien à voir avec l'écriture d'un film de fiction. Comment ça s'est passé pour toi cette expérience? En plus, tu me dis depuis 2014 tu es dessus, comment ça s'est passé?
Bah écoutez, c'était une expérience très, très, très intéressante, très enrichissante aussi pour moi, parce que l'écriture a pris quand même à peu près de 3 ans et demi, 4 ans, parce que je ne voulais pas quand même juste partir dans les lieux et poser la caméra et capter. Pour moi, c'était quand même pas très intéressant parce que le sujet en soi est très complexe. Et donc il fallait quand même aborder des thématiques, aller les explorer et partir à la quête aussi de l'écriture de ce film. C'est pour cela que je dis toujours que quand on parle de la quête dans le film, c'est ma quête aussi quelque part, ce qui est très intéressant. Et donc voilà, j'ai essayé quand même d'arriver quand même à une certaine écriture qui pourrait être fidèle et qui pourrait honorer justement le rapport avec les personnages et aller quand même jouer avec les instruments cinématographiques quelque part, prenant l'analogie de la musique.
Et c'est vrai que, comment dire, tu parles de quête, d'ailleurs les deux personnages dans ton documentaire principal sont en quête également, mais quand tu parles de quête, c'est quête en tant qu'homme, en tant qu'artiste, de Adnan Baraka justement à travers ce film, est-ce que c'était un peu une introspection pour toi?
Je pense que chaque film est une quête quelque part introspective, et pour moi, si vous voulez concrètement, la quête qui était au début très significative, c'est la quête d'un langage cinématographique à travers ce film. Et d'aller quand même explorer le cinéma et essayer d'aller jusqu'au bout de l'idée pour justement arriver à, comme j'ai dit tout à l'heure, honorer cette rencontre avec les personnages, avec le lieu aussi qui est très inspirant. Ouais, donc c'était ça, c'était la quête de l'écriture, du film quelque part. Et je pense qu'on comprend des choses sur nous-mêmes. C'est très révélateur le process de la fabrication d'un film.
Tu nous parles justement de peut-être un prochain film. Donc je ne sais pas où est-ce que tu en es. Apparemment, ce sera en tout cas de la fiction. Et justement, pourquoi switcher du documentaire à la fiction? Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que tu veux tout simplement t'essayer à quelque chose de nouveau?
Ah, franchement, j'étais toujours dans la sphère de la fiction. C'est-à-dire que je suis quand même, je peux prétendre être un cinéphile, mais plutôt par rapport à la fiction. Et après, j'ai compris par la suite, surtout en faisant ce projet-là, que ce sont les sujets qui dictent quand même la forme et qui dictent le genre de la production cinématographique, que ce soit un documentaire, une fiction ou carrément l'animation aussi, ça m'inspire aussi l'animation. Et donc c'est vraiment les sujets qui dictent le choix. Et je pense que le prochain projet, Inch'Allah, ça va être une fiction que j'espère pouvoir quand même être fidèle en faisant ça aussi.
Merci beaucoup, Anne.
Merci beaucoup.
Le Festival du film national de Tanger, donc la 23e édition qui a refermé ses portes le 4 novembre dernier. qui a refermé ses portes le 4 novembre, a vu pas moins de 4 catégories de compétition officielles étaient donc prévues au programme de l'édition 2023 du FNFT, à savoir la compétition long-métrage de fiction, sans oublier la compétition long-métrage documentaire, la section court-métrage, sans oublier la section film d'école. Et puis, il y a également ce film qui a fait pas mal de bruit, L'Oasis des eaux gelées de Raouf Sebahi, qui revient avec ce long métrage, un long métrage qui rompt totalement avec ce qu'il avait pu nous proposer jusqu'à maintenant, un film très intime, puisqu'il est inspiré du vécu, du propre vécu du réalisateur. Ça parle du postpartum, mais chez les hommes, ça parle également d'un couple qui se déchire après la naissance d'un enfant. L'Oasis des eaux gelées, un film auquel Raouf entretient une sorte de relation haine-amour. On l'écoute tout de suite.
En fait, ce n'est pas une idée qui m'est venue comme ça. En fait, c'est parce qu'il est à moitié, ou la disant un petit peu moins que la moitié, autobiographique. C'est-à-dire que je raconte une période de ma vie. Parce qu'en fait, je raconte l'histoire d'un jeune couple, amoureux depuis très jeune. Après mariage, à la naissance du premier bébé, le papa souffre de ce qu'on appelle le syndrome du papa jaloux. Il est jaloux de l'arrivée de son fils parce que pour lui, dans sa tête, il lui a pris sa place. Enfin, la place qu'il avait avec sa femme. Et c'est de là qu'est venue l'idée, parce que j'ai vécu cela, mais sur une petite période, pas comme ce que je raconte dans le film, où ça dure beaucoup plus longtemps. Et puis c'est de là que j'ai pensé à raconter ça, à le partager. Une sorte de catharsis, de... une façon de mettre à nu, comme ça je passe à autre chose. Et puis je pense que, en toute honnêteté, j'aurais pas dû faire ce film, pas pour sa qualité, pour ce qu'il est, mais parce que c'est le film que je déteste le plus dans toute ma petite carrière. Pas pour ce qu'il est, pour le mal que je me suis fait et j'ai fait à mes proches en faisant ce film.
Et justement, c'est là où je voulais un peu en venir, parce que je savais que ça devait certainement être inspiré de ton vécu, ou en tout cas de quelqu'un de très proche. Et quand tu dis que voilà, ça a fait du mal, pourquoi est-ce que ça t'a renvoyé tes vieux démons? Est-ce que ça a été dur de te l'avouer à toi-même, ou c'est un sentiment que tu avais refoulé qui est ressorti?
Tout ça par rapport à moi. Et puis la manière dont mes proches l'ont reçu me fait regretter le fait de l'avoir fait. Je ne trouve même pas mes mots, mais voilà, je sens que ce film ne devait pas exister. Et en plus, qui s'intéresse à un couple qui souffre, ou le mari souffre du syndrome du papa jaloux. Bon, maintenant, c'est un film de cinéma, il est en train de bien me le rendre, en fait, parce qu'il voyage bien, il fait des festivals, il fait des prix. Ça, c'est le côté cinéma, le côté personnel. Je le partage avec les auditeurs de Média 1. C'est une deuxième catharsis, peut-être.
Et c'est vrai que moi, c'est une thématique qui me touche beaucoup, le postpartum, et à quel point parfois c'est tabou, surtout dans nos sociétés. Et avant de le vivre, est-ce que tu pensais que ça existait? Ou est-ce que tu pensais que c'était un sentiment réservé aux femmes? C'est une question qui n'a rien à voir, être très personnelle en tant que comme, surtout pas en tant qu'artiste. Est-ce que c'est une question qui t'a déjà effleuré?
Très honnêtement, jamais. J'appréhendais plein d'autres trucs, d'être papa poule, d'être le papa gâteur. Mais je n'ai jamais pensé qu'un jour. Et tu sais, mon fils aujourd'hui, il a presque 16 ans. On est les meilleurs potes au monde. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je serais jaloux d'une partie de moi. Ça, après, il y a de quoi rire. Mais non, pas du tout, au contraire. J'appréhendais plein d'autres trucs, plein d'autres problèmes que vivent les parents, mais surtout pas ça, parce que franchement, là, après 15 ans de sa naissance, plus de 15 ans de sa naissance, ça peut devenir drôle. On peut en rire.
Et tu parles d'un autre film. Est-ce que tu as déjà une idée? Je sais que tu prends ton temps pour faire tes films. Tu as besoin de les... comme des bébés, en fait. Hein. On n'est pas loin de ce bébé qu'on jalouse. Et voilà, est-ce que tu as déjà une idée, peut-être, de ce qui va suivre? Et surtout, quand est-ce qu'on pourra regarder en salle Oasis, donc des eaux gelées?
Alors, pour la sortie en salle, j'ai pu trouver un distributeur en France, mais pas chez moi au Maroc. Parce que c'est un film qui est quand même différent des autres films, difficile, pas grand public. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on dise non à ce genre de film. Il a le droit d'exister, il a le droit d'être vu, ne serait-ce que par un petit nombre de Marocaines et de Marocains sur des complexes de salles
Il y a les grandes et les petites salles. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on le mette dans la plus petite des salles, parce que c'est normal, c'est logique. Mais quitte à trouver autant de difficultés pour distribuer des films difficiles, je suis d'accord, mais c'est des films marocains subventionnés par l'État que les Marocains doivent voir. Donc, la sortie, je me bats pour que ce soit au plus tard, d'ici le février prochain, grand maximum. En France, ça sera mi-décembre, qui est une très très belle date de sortie, parce que c'est les vacances, je suis étonné. Et puis voilà, sinon on va le vendre à une chaîne thématique qui prendra ça, et puis à ce moment-là, il sera vu par un maximum de personnes. Ça, d'une part. D'autre part, le prochain projet est déjà écrit. Enfin, je suis à ma sixième version, que je commence à déposer ici et là pour des fonds de réécriture ou même de coproduction. Si tout va bien, parce que je suis très chanceux au niveau subsides et fonds, ça me réussit toujours. Je croise les doigts, je touche le bois. Si tout se passe bien, on le tourne septembre 2024, si on veut. Inch'Allah.
Merci beaucoup, Raouf.
C'est moi, merci.
Raouf Sabahi, donc, qui était en compétition lors de la 23e édition du Festival national du film de Tanger avec son film de fiction L'Oasis des eaux gelées, un film qui a beaucoup fait parler lors de sa sortie et qui a interpellé pas mal de monde, notamment à cause de la thématique qu'il a abordée du postpartum chez les hommes ou encore de cette thématique du couple qui se déchire, mais également grâce au langage cinématographique donc utilisé par Raouf Sabahi qui a fait appel au néo-expressionnisme et à des corps totalement construits. On arrive à la fin de ce nouvel épisode de l'Afrique en culture qui était consacré à 100% à la 23e édition donc, du Festival national du film de Tanger qui nous a encore proposé cette année des jolies pépites cinématographiques et mis la lumière sur une nouvelle génération de cinéastes qui sortent des écoles très prometteuses. Et pour finir en beauté, on écoute un petit Mashra Leila avec Bahr, puisque la bande son du film de Raouf Sabahi, L'Oasis des eaux gelées, a été composée par le groupe libanais. On écoute tout de suite et n'oubliez pas, l'Afrique en culture, c'est toujours en avant-première sur Média Podcast.